Il est 13h sur Radio Ndekeluka. Nous retrouvons Reine Fabienne Dotiga pour le journal. Arène, bonjour.
Bonjour Nina Verdania Bodé, bonjour à tous à la une de ce journal. Le gouvernement centrafricain face à un problème de ressources financières, une tension de trésorerie confirmée hier par le ministre des Finances après son conseil de cabinet, on fait le point au début de ce journal. Régis Lionel Dunda, ancien ministre des Sports devant les juges depuis ce matin, il est accusé de détournement de deniers publics et contrefaçon des sceaux de l'État. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place à la cour d'appel de Bangui. Et puis, réaction du gouvernement sur le rapport de Human Rights Watch. Si le document publié hier pointe du doigt des forces russes dans des violations de droits humains, le porte-parole du gouvernement parle d'un rapport mensonger. Basketball, Aston Tongolo reçoit Tantema. C'est le seul match de la troisième journée du championnat aller de la Ligue de Bangui à 16h au Palais des Sports.
À la une de ce journal, Rennes, le gouvernement fait face à une tension de trésorerie.
Oui, Verdian Seska a indiqué le site officiel du ministère des Finances qui invite les autres ministères à doubler d'efforts pour faire face à cette situation. Le point avec vous, Jean-Fernand Quinn.
Le gouvernement a commencé à parler de cette tension de trésorerie après le retour du Premier ministre Félix Moulaoua d'une mission de plaidoyer aux États-Unis.
Comme vous le savez, un certain nombre de projets techniquement bien montés n'ont pas pu passer au conseil d'administration de la Banque mondiale, dû au fait que certains administrateurs d'un certain nombre de pays ont souhaité le report, donc pour des raisons, nous n'allons pas nous établir dessus, que ces projets ne pouvaient pas passer en conseil d'administration. Alors donc c'était l'occasion de discuter avec la Banque mondiale, de faire le point. Le
Premier ministre Félix Moulaoua exprime ici les difficultés rencontrées dans ses échanges avec les institutions de Bretton Woods. Ceci après l'échec de conclusion avec le Fonds monétaire international d'une facilité élargie de crédit. Conséquence, le gouvernement a suspendu par exemple les évacuations sanitaires. Mais comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement opte davantage pour des mesures d'austérité. Sur la page officielle du ministère des Finances, le ministre Hervé Ndoba a évoqué pour la première fois les difficultés liées aux dépenses aussi bien qu'aux recettes insuffisantes de l'État. En l'absence des financements extérieurs, l'État n'est plus en mesure d'exécuter le budget initial de manière intégrale, d'où nécessité d'aller vers sa révision. Il est expédient de noter que nonobstant cette situation alarmante, les régies financières ont réalisé une bonne performance en dépassant les prévisions des recettes au titre du premier trimestre 2022. Cependant, les ressources financières mobilisées ne permettent pas de couvrir l'ensemble des charges de l'État et la poursuite des investissements dans les infrastructures sociales de base, peut-on lire dans le rapport de la réunion de ce département. Au regard de cette situation et selon les observateurs, la réduction du train de vie de l'État s'impose et un collectif budgétaire est donc inévitable. Ceci dans un contexte de hausse généralisée des prix de produits sur le marché.
Rennes, le journal se poursuit. Direction maintenant la cour d'appel de Bangui avec la reprise ce matin des audiences de la session criminelle.
Oui, un crime économique au rôle aujourd'hui. C'est l'affaire qui concerne l'ancien ministre des Sports, Régis Lionel Dunda, accusé de détournement de deniers publics, contrefaçon des sceaux de l'État. Régis Lionel Dunda était dans ce dossier avec Daniel Nzéwe et Arsène Crépaillot. Mais ces deux derniers se sont présentés devant les juges comme des témoins. À la cour d'appel de Bangui, nous avons notre reporter, Chris Roy Jordan. Jordan Badengbe. Jordan, bonjour.
Bonjour, Reine Fabienne Dotiga. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Quelle est cette affaire de détournement de deniers publics qui concerne Régis Lionel Dunda?
Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il s'agit de l'affaire du procureur de la République contre le nommé Régis Lionel Dunda, ancien ministre des Sports et de la Jeunesse. Il est accusé, ce dernier, je veux dire, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports est accusé de détournement de deniers publics, de contrefaçon de de l'État, il faut en écouture publique. L'audience a débuté, comme à l'accoutumée, par le tirage au sort des jurys, je veux dire ceux qui doivent assister les juges, la présentation de l'accusé suivie de la lecture des chefs d'accusation portés à son encontre. Dans cette lecture faite par le greffier en chef, l'ex-ministre aurait détourné une somme de plus de 50 millions de francs CFA, représentant les loyers de 5 ans d'une société du nom de Bocom qui occupe pour le moment une partie de l'Omnisport. La cour a aussi vérifié l'identité de l'accusé, ce qui a été fait par Antoine Laou, qui est le président de l'audience en ce moment.
Jordan l'accusé a pris la parole. Quelle a été sa défense?
Oui, après la vérification de son identité, l'accusé a pris la parole. Je n'ai pas falsifié ou contrefait les sceaux de l'État à Rue Tortelette, ministre de la Jeunesse et des Sports, pour Lionel Régis Dunga. Présenté devant la barre, il a bondi dans sa main un contrat qui, selon lui, est le bon et que l'avocat général n'a pas accepté. Pour le moment, c'est Daniel Véry qui est ici dans la salle comme, qui est là pour témoigner, qui a la parole. Selon l'ex-ministre de la République, c'est l'agent comptable du Trésor public qui a réceptionné une partie de l'argent et pour aller déposer, pour verser au Trésor public à Bondi. Ce dernier n'est pas présent dans la salle ici pour le moment, ce que les avocats de l'accusé ont revêté. C'est le témoin Daniel Zewé qui est actuellement devant la barre en train de répondre aux questions des avocats de l'accusé. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la défense ici est constituée de plus de 4 avocats, dont on peut citer l'avocat, le maître Jean-Pierre Madoukou et Albert Panda.
Merci, Khiswa Jordan Badengbe. Je rappelle que vous êtes à la cour d'appel de Bondi.
Rennes, venons-en à cette information qui continue de susciter des réactions et d'alimenter les débats au sein de la population de Nzako dans le Mbomo.
Souvenez-vous, des hommes armés de l'UPC d'Ali Darassa ont attaqué le 28 avril dernier la base des FACA dans cette ville. Attaque qui a fait au moins 6 morts du côté des forces et 3 du côté des assaillants. Selon des informations rapportées à Radio Ndekeluka, l'assaut a eu lieu durant la nuit au moment où la base était déserte. Radio Ndekeluka a enquêté sur ces faits. Armando Yanguindi, bonjour. Quels sont les premiers éléments d'information concernant cette attaque?
Bonjour Rennes, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, d'après les informations, notre possession est confirmée par des autorités ressortissantes de Nzako. Sur les 60 éléments des FACA déployés, 12 seulement ont passé la nuit dans leur camp. Près d'une quinzaine de rebelles de l'UPC, qui d'ailleurs n'étaient pas loin de la ville, ont fait irruption aux environs de 4 du matin et ont ouvert le feu. Bilan, 6 éléments sont tués et quelques armes emportées, comme nous confirme ici le député de Nzako, Dieudonné Gabin Boulifoufélé.
Ils ont pris la localité, ils ont dévasté tout. Ils ont pris les fusils, ils ont pris les munitions, ils ont coupé les réseaux.
Armando, est-ce que les corps de ces militaires sont ramenés à Bangui?
Non, car selon des sources concordantes, les assaillants ont assiégé la base de 4h du matin à 14h avant de se retirer, ce qui a rendu difficile l'évacuation express des corps à Bangui. Toutefois, les autres blessés ont été secourus et évacués par le renfort venu de Bakouma.
Oui, parlons de renfort, à quel moment est-il arrivé sur les lieux?
Effectivement, le premier renfort est venu de Bakouma à plus de 60 km de Nzako. Dépourvu de moyens roulants, les FACA, forces armées centrafricaines de Bakouma, qui d'ailleurs ont été informées tardivement aux environs de 14 heures à bord de motos, sont arrivés sur les lieux plus tard, le lendemain aux environs de 3 heures du matin. Entre-temps, Rennes, les assaillants se sont éclipsés quelques heures avant sans inquiétude.
Alors, quelle réaction face à cette difficulté de mouvement des forces?
Si l'armée est une grande muette en République centrafricaine, la population, elle, dénonce les maux qui minent le secteur de la défense du pays. Le renfort dont fait mention la population de Nzako consiste à doter les forces armées centrafricaines en moyens roulants, de leur verser à temps leur prime globale d'alimentation PGA, car des informations rapportées à notre rédaction font état de ce que, depuis 2 mois, les FACA détachés à Nzako et à Bakouma n'ont pas encore perçu leur prime. Un habitant de Nzako lance un SOS.
Ce sont seulement les FACA qui ont été ciblés, mais pas la population civile. Donc, nous demandons au gouvernement d'envoyer un renfort à l'armée nationale, si possible, dépêcher les soldats russes en appui pour la population en insécurité et qui ne peut plus aller au champ, les enfants souffrent.
Les autorités locales souhaitent que Bangui veille au respect du délai de mission des soldats sur le terrain. Pour le moment, la ville de Nzako est calme et les activités reprennent progressivement, même si certains habitants signalent la présence des hommes armés armées de l'UPC, non loin de la ville.
Armando Yengendi, aux dernières nouvelles de Nzako, nous apprenons qu'un élément de Fakab a abattu ce matin un de ses frères d'armes. Selon des témoignages, la victime a été confondue à un ennemi.
Dans cette actualité, un nouveau rapport de Human Rights Watch cite les forces russes en République centrafricaine dans des violations de droits de l'homme.
Le rapport a été publié hier. L'organisation pointe du doigt des forces liées à la Russie qui pourraient appartenir au groupe paramilitaire Wagner d'avoir sommairement exécuté, torturé, battu des civils en février 2019 et novembre 2021. Le point avec Vianney Ingasso.
Pour Human Rights Watch, des preuves convaincantes démontrent que des paramilitaires russes soutenus le pouvoir en Centrafrique ont commis de graves abus sur des civils, dont des meurtres et tortures en toute impunité depuis 2019. Ces faits, selon l'ONG de défense des droits de l'homme, ont eu lieu à Bombari, à Lindao, Nanabakassa, Kuki et Bosangwa. D'après Human Rights Watch, ces agents ont rencontré une vingtaine de personnes victimes de ces abus et tortures, dont 10 victimes et 15 témoins, qui indiquent que ces exactions auraient été commises par des hommes à la peau blanche parlant russe, langue reconnue par les témoins. Le crime le plus grave documenté, c'était une exécution sommaire en masse le 28 juillet 2021 au nord de la ville de Bosangwa en plein jour et contre des gens qui n'étaient pas armés. Ça peut être un crime de guerre, estime Human Rights Watch. Sollicité par l'ONG sur les accusations du rapport, ni le gouvernement centrafricain, ni le ministère russe des Affaires étrangères n'a donné suite. Le rapport de Human Rights Watch est publié juste un mois après celui du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme accusant les forces russes d'exactions sur des civils en Centrafrique. En 2021, la division des droits de l'homme de l'ONU avait documenté des violations de droits de l'homme impliquant des forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. La conclusion d'une enquête ouverte par le gouvernement avait confirmé en partie ces violations.
Et le gouvernement a réagi sur ce rapport de Human Rights Watch.
Selon son porte-parole, Ghislain Serge Djouri, c'est un rapport mensonger monté de toutes pièces pour discréditer les actions du gouvernement. Il est interrogé par Rolf Steve Doumialeux.
Nous demandons formellement au monde entier de se dessaisir au moins d'avoir des financements à partir du sang des Centrafricains et d'arrêter de mentir au nom de la République centrafricaine. Et ce rapport, je le dis haut et fort, c'est un rapport mensonger, c'est un rapport irresponsable, c'est un rapport des groupes des menteurs. Nous n'avons rien à faire que d'être tranquille, le gouvernement centrafricain serein. Ça, c'est pas la préoccupation du gouvernement centrafricain, je vous le dis. Chaque fois qu'on est au Conseil des ministres, le chef de l'État nous a toujours dit. Quand un seul Centrafricain meurt du paludisme, il interpelle le ministre de la Santé. Maintenant, la vraie préoccupation du chef de l'État et de tout le gouvernement, c'est le développement. Les rapports, qu'est-ce que les rapports vont changer dans le quotidien du Centrafricain? Sont qui élaborés depuis des rapports, soit à tort ou à raison? Est-ce qu'ils ont apporté les solutions au quotidien du Centrafricain? Mais nous sommes battus pour assurer le devoir régalien et maintenir le droit social du citoyen centrafricain. C'est ça la responsabilité que nous devons offrir au peuple centrafricain.
La page au sport de cette mi-journée, c'est avec vous. Bienvenue Bélo, bienvenue, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Basketball, un match de la troisième journée du championnat aller de la Ligue de Bangui se joue aujourd'hui.
Cet après-midi à 16h au Palais des Sports, AS Tongolo reçoit Tandema. Hier, BAC a battu Zarasklo 67-57.
Basketball, FIBA Afrique rétablit la Fédération Centrafricaine de Basketball dans ses fonctions.
Rétablissement suite à la décision du tribunal administratif qui a annulé toutes les décisions du ministre des Sports contre la Fédération Centrafricaine de Basketball. Le 4 avril dernier, le ministre des Sports avait pris un arrêté pour dissoudre le bureau fédéral. Le 27 du même mois, le tribunal a tranché cette affaire et a rétabli le bureau exécutif dans ses droits. Et M. Serge Singabengba, président de la Fédération Centrafricaine de Basketball, se dit heureux de cette décision de la FIBA. Pendant ce temps, le ministre de la Jeunesse et des Sports ne reconnaît pas la décision de la justice du 27 avril dernier. Aristide Briand Reboas a fait une déclaration qui a été publiée sur la page Facebook du ministère le 2 mai dernier. Dans sa déclaration, le ministre déplore l'absence de l'avocat du ministère lors du procès du 27 avril. Le ministre reste dans un élan d'organiser des élections pour le CENOSCA et la Fédération Centrafricaine de Basketball et changer les équipes dirigeantes actuelles. L'on se pose aujourd'hui la question, à quand va se terminer ce feuilleton de ping-pong entre le ministère des Sports et certaines institutions sportives?
Du foot à l'international, la dernière demi-finale de la Ligue européenne des champions se joue ce soir.
À 20h, Real Madrid, après une défaite à l'aller 4-3, va accueillir Manchester City à Santiago Bernabéu. Quels sont les enjeux de ce grand duel? Claire Assambadinga.
Pour la deuxième fois cette saison en UEFA Champions League, le Real Madrid doit remonter à domicile. Une défaite subie à l'aller alors que Manchester City tente de se qualifier pour la deuxième fois consécutive en finale. Au match aller en Angleterre, les Citizens l'avaient remporté 4-3. C'était le record de nombre de buts dans un match d'une demi-finale de la Ligue des Champions. C'est aussi pour la première fois que le Real Madrid perd un match aller à l'extérieur sur un tel score. Le match de ce soir est la troisième demi-finale pour City. La première s'étant soldée par une défaite face à Madrid. Les Madrilènes, couronnés champions d'Espagne le week-end dernier, ont remporté 16 demi-finales en Ligue des Champions. Le match de ce mercredi est la 11e participation pour les Citizens. Qui, des Madrilènes ou des Citizens, iront en finale? On le saura à la fin de cette rencontre.
Hier, Liverpool s'est qualifié en finale en battant Villarreal 3-2. Au match aller, Liverpool avait gagné 2-0. La finale se jouera au Stade de France le 28 mai.
Ce journal en français est terminé. Merci de votre fidélité. Mais ne quittez pas la version en langue nationale, c'est après cette courte pause.